Radio Okapi. Journal présenté par Grace Amzati Massanzi.
À la une de l'actualité, les victimes des récents bombardements rebelles des sites déplacés survenus à Lushagala au nord Kivu seront inhumées ce samedi. Annonce faite par une délégation du gouvernement central arrivée à Goma ce jeudi. Les dépenses de l'organe législatif congolais sont estimées à 1,1 milliard de dollars entre 2021 et 2023. C'est un dépassement budgétaire de 298,9 millions de dollars. C'est ce que révèle le nouveau rapport du Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFEDEL, présenté ce jeudi à Kinshasa. Notre invitée est Viviane Van de Peyre, la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU chargée de la protection et des opérations. Elle a bouclé mardi 7 mai une visite de 48 heures à Beni, au nord Kivu. Elle nous parle de l'objet de sa visite dans cette partie de la province du nord Kivu. Mesdames et messieurs, bonjour. Au nord Kivu, les victimes des bombardements rebelles des sites des déplacés survenus à Lushagala le 3 mai dernier seront inhumées ce samedi. C'est ce qu'annonce une délégation gouvernementale arrivée ce jeudi à Goma. Sa mission est justement d'organiser les obsèques des victimes de ces bombardements et de compatir avec les familles des victimes. La délégation est composée des ministres des Affaires sociales, des droits humains et de quelques députés nationaux. On écoute à ce sujet Modeste Mutinga, ministre des Affaires sociales, au micro de Bernardine Diambo.
Nous sommes venus en délégation dépêchée par le gouvernement de la République à la demande du président qui était en mission à l'étranger, qui a interrompu à cette occasion son périple pour compatir avec la population du Nord Kivu. Le gouverneur nous a communiqué le bilan à ce jour. Ce bilan qui a évolué était de 14 morts. Il est aujourd'hui fixé à 35 morts et 37 blessés. Nous avons décidé d'organiser les obsèques le samedi prochain. Une délégation de Kinshasa nous rejoindra également le samedi. Toutes les dispositions sont prises pour que ces obsèques soient dignes des fils du pays qui ont perdu leur sang pour l'intégrité de notre territoire, pour sauver la patrie.
Pendant ce temps, au moins 27 blessés sur la trentaine des victimes de cette explosion survenue dans les sites des déplacés de Lushagala suivent des soins à l'hôpital Bethesda, Sepsia Ndosho, appuyé par le CICR. Ces personnes témoignent avoir vécu l'horreur ces jours-là alors qu'ils étaient tranquilles dans leurs abris. Parmi ces victimes se trouvent des familles complètement affectées par des morts et des blessés. Entre-temps, les corps des défunts sont encore à la morgue une semaine après l'incident, en attendant l'organisation des obsèques qui, je vous le rappelle, auront lieu ce samedi d'après le ministre des Affaires sociales que vous venez de suivre. Sifa Maguru a rendu visite à ses déplacés. Voici son reportage.
Parmi ces blessés, une jeune femme qui a perdu ses trois enfants, dont un bébé de 2 semaines, alors qu'elle-même et son fils aîné de 7 ans sont grièvement blessés par des éclats. Explication de sa belle-sœur qui est gardée malade.
Au moins 4 bombes sont tombées et la 5e est tombée à l'église CEPAC bloc 4. On nous dit que ma belle-sœur est morte avec ses 4 enfants. Jojo a reçu des éclats au ventre, sur toutes les 2 jambes, les mains et au visage. Nous sommes allés dans d'autres hôpitaux. On nous dit qu'on a reçu un bébé décédé et on a compris que c'est notre enfant parce que la maman venait d'accoucher il y a 2 semaines.
La plupart de ces blessés sont venus des Sake, Chacha et alentour. Élisée Hangi, une autre mère qui a 2 enfants blessés, nous raconte comment ils ont été surpris par cet incident.
Nous étions à la maison sans s'attendre à quelque chose. Subitement, nous nous sommes retrouvés par terre. Beaucoup de gens ont perdu connaissance, moi-même aussi. On s'est retrouvés ici à l'hôpital. Et pour arriver ici, c'était tout un problème. Pas de transport et des coups de feu retentissaient.
Toutes ces familles sont encore sous le choc après avoir vécu cette explosion et ne souhaitent qu'une chose, rentrer dans leur village, même si ce n'est pas garanti. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Restons dans cette province où un afflux de déplacés internes s'observe depuis 4 jours dans différents sites des déplacés situés dans le quartier Lac Vert à Goma. Estimé à plus de 2000 ménages, selon le chef de ce quartier, ils sont issus de différentes agglomérations des territoires des Masisi et des Kale. C'est notamment Rubaya, Ngungu, Bitonga, Umure, Rushika, Rushoka dans les territoires de Masisi, tandis que d'autres sont venus de Bouzi, Kalungu, Minova et dans d'autres agglomérations dans les territoires de Calais au sud Kivu. Ces personnes vivent dans la précarité, affirme notre source qui plaide pour une prise en charge rapide par les humanitaires afin d'éviter le pire. Dedesi Mitima, chef de quartier Mugunga, explique au micro de Bernardine Diambo.
Il y a les gens qui sont en train de fuir les atrocités qui se font dans des collines. Nous sommes en train de les identifier à travers nos présidents qui gèrent les camps au quotidien. Ils disent qu'ils sont déjà étouffés et ça présente un danger aussi. Quand il y a beaucoup de gens, c'est-à-dire nous allons nous attendre à beaucoup de défis. D'abord, ils mènent une vie médiocre. Ils ne se sont pas encore organisés. Ils ont fui, ils n'avaient rien. Ils ont abandonné tout ce qu'ils avaient dans leur maison. Nous sommes autour de plus de 2000 ménages, selon le nombre que les présidents nous ont envoyé ce matin. Donc, nous croyons que le gouvernement, avec ses partenaires, il faut quand même faire quelque chose d'urgence pour assister ces gens. Ils sont un peu éparpillés, ils n'ont pas de bâche, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas de couverture. Donc, ils ont eu à rejoindre les camps qui sont déjà présents ici dans les quartiers Lac-Vert. Vraiment, c'est une situation inquiétante. Chacun doit apporter sa pierre de construction pour que la paix revienne dans notre entité.
Par ailleurs, la province de l'Ituri compte environ 8000 secouristes qui interviennent dans des conditions extrêmement difficiles. Déclaration de la direction provinciale de la Croix-Rouge à l'occasion de la célébration le 8 mai de chaque année de la journée internationale consacrée à cette organisation. Le chargé de communication de cette structure en Ituri cite notamment la présence des groupes armés et le manque de moyens logistiques, ce qui limite leurs interventions dans des zones où la population a besoin de l'assistance. Il sollicite l'appui du gouvernement et des partenaires pour permettre aux secouristes de la Croix-Rouge, dont certains se sacrifient au péril de leur vie, de bien accomplir leur mission. Elle consiste à apporter assistance aux victimes des conflits armés et d'autres situations de violence. Delphine Tchanoumoula est au micro de Jean-Claude Lokidile.
Je prends le cas de Mambasa. Vous savez, de temps à autre, ces porteurs d'armes viennent attaquer les carrés miniers. Les carrés miniers se trouvent en profondeur de la forêt où on peut mettre 2 jours pour atteindre ces carrés miniers. Et des fois, ils tuent les gens. D'ailleurs, récemment, on venait de nous dire qu'on venait de ramasser quelques corps dans la rivière Ituri. Et nos volontaires qui sont à Mambasa, sans moyens, sans matériel, notamment les sacs mortuaires pour enterrer ces corps, les chlores pour désinfecter les corps. Mais l'essentiel pour eux, comme ils se sont engagés, ils sont déterminés à aller enterrer ces corps de peur que ces corps, en pourrissant, ne puisse créer une épidémie dans la région. Je reviens du côté Irumu. Il y a des moments où ils peuvent aller enterrer des corps, mais malheureusement, ils trouvent que le corps est piégé par un engin explosif. Nous tendons la main au gouvernement congolais, mais au niveau provincial, nous allons demander également au gouverneur militaire de la province de l'Ituri de jeter un regard sur la Croix-Rouge, qui est la Croix-Rouge de la province de l'Ituri, malgré ses multiples charges, gérer la situation sécuritaire pour la province, mais qu'il jette aussi un regard sur la Croix-Rouge qui est en difficulté.
Et puis, 48 heures après l'effondrement de l'immeuble satellite dans la ville de Matadi du Congo central, l'opération d'évacuation des débris se poursuit sur le site du sinistre. À en croire le maire de Matadi, le bilan reste d'un mort et de 4 blessés graves. La seule victime est décédée des suites de ses blessures à l'hôpital général de référence de Kinkanda. Dominique Nkodia, maire de la ville de Matadi, indique que jusqu'à présent, aucune famille ne s'est plainte de la disparition d'un proche. Vous suivrez de plus amples détails dans notre édition de 8h, heure de Kinshasa. Autre aspect d'actualité, des milliers de foyers congolais ont l'accès à l'électricité, plus de 11 millions de Congolais ont accès à la santé et à l'éducation et plus de 2,5 millions d'hôpitaux et écoles ont accès à l'Internet grâce au soutien de l'Union européenne. Affirmation de l'ambassadeur Nicolas Berlanga en marge de la célébration de la journée de l'Europe le 9 mai. Tout en reconnaissant les hauts et les bas dans la coopération bilatérale entre l'Europe et la RDC, l'ambassadeur de l'Union européenne souligne tout de même que 3/4 des Congolais souhaitent voir l'Union européenne augmenter des sanctions contre les personnalités congolaises selon une enquête. Pour renforcer la confiance des Congolais envers la coopération européenne, l'ambassadeur promet des programmes d'investissement axés sur le modèle européen. Nicolas Berlanga Martinez est au micro de Michel Kifindangoy.
Je vais rappeler énorme action qu'on a menée ensemble depuis 60 ans dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'accès à l'électricité, maintenant de l'accès à Internet, des réformes du secteur de sécurité, de la préservation de la nature. Donc aujourd'hui, nous offre déjà des réalités, mais les demain, probablement, va nous ouvrir aussi d'autres réalités. Et ces autres réalités doivent être très liées aux investissements, au secteur privé. à la transformation énergétique, à la transformation numérique, à la création d'emplois, aux infrastructures, à l'agriculture. Et on prépare déjà des projets dans ce sens, avec un modèle européen qui est particulier par rapport à ce modèle qui offre d'autres partenaires. Par exemple, dans le sens de demander qu'une partie de la transformation se fasse sur place, en mettant l'accent sur la formation professionnelle. Il ne faut pas faire venir de l'expertise étrangère. Il faut former des Congolais aussi à avoir cette expertise. Par exemple, en respectant l'environnement, à faire que les communautés voisines de tous ces projets en bénéficient.
Le biface du Parlement congolais, un contrôleur à contrôler, c'est l'intitulé du nouveau rapport du Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFEDEL. Cette étude met en lumière le caractère budgétivore des deux chambres du Parlement. À titre illustratif, les dépenses de l'organe législatif congolais sont estimées à 1,1 milliard de dollars entre 2021 et 2023. C'est un dépassement de 298,9 millions de dollars, révèle ce rapport. Cynthia Bachizinabizana a assisté à sa présentation.
CREFEDEL dit avoir compilé environ 500 documents, un travail élargi aux entretiens avec le personnel administratif ainsi que des assistants parlementaires dont voici quelques résultats majeurs. Valérie Madianga, coordonnateur du CREFEDEL.
On a décaissé par exemple 90 millions de dollars sur les besoins de 4 millions chiffrés dans la loi de finances ou l'achat des véhicules. Deuxièmement, le Parlement a construit des bureaux qui devraient abriter les commissions parlementaires. Ces bureaux ont été achetés Mais personne ne sait où ça se trouve. Vous avez également le recrutement abusif du personnel. On a recruté par exemple à l'Assemblée nationale et plus de 2000 personnes. Et pourtant, la loi, le règlement intérieur n'autorise que 157 personnes qui pouvaient accompagner le bureau de l'Assemblée nationale. Au Sénat également, c'est pareil, c'est plus de 800 au lieu de 157.
L'ONG dit avoir envoyé un courrier aux deux chambres du Parlement sans jamais avoir de réponse de leur part. In fine, CREFEDEL recommande à l'IGF et à la Cour de compte de diligenter une mission mixte à l'Assemblée nationale en ce qui concerne sa gouvernance budgétaire.
Cynthia Bachizi Nabizana sur Radio Kapi. Suite et fin de notre série de reportages sur la ville de Kolwezi, débutée en début de semaine. Le boom immobilier impacte positivement sur l'économie de la province du Lualaba. C'est ce qu'affirment des acteurs locaux. Ils estiment que malgré les multiples problèmes que traverse le Lualaba, la province enregistre des avancées significatives. La coordination provinciale de la société civile Force Vive du Lualaba parle notamment de la construction des infrastructures modernes dans la ville de Kolwezi. Un reportage rendu par Greta Lulendo.
Si vous étiez ici il y a 10 ans et maintenant, la ville de Kolwezi s'est quand même développée. Vous voyez que c'est devenu pratiquement un chantier permanent. La ville change au jour le jour.
La personne que vous venez de suivre est le président de la coordination provinciale de la société civile Force Vive du Lualaba. Selon lui, le développement du Lualaba est le résultat des efforts fournis par trois principaux acteurs, le gouvernement provincial, les entités territoriales décentralisées et les investisseurs privés. Félix Tamboué énumère ici quelques réalisations.
Il y a la construction de l'échangeur de Kolwezi à la hauteur de l'aéroport de Kolwezi, l'aménagement de quelques routes de desserte agricole dans les territoires, l'hôpital moderne, il y a l'aérogare de Kolwezi, les ETD parviennent à construire des écoles, des centres de santé, des hôpitaux, des routes, des forages d'eau potable, à mettre l'éclairage public et même asphalter des routes. Quand vous arrivez à Kolwezi, vous voyez qu'il y a beaucoup d'immeubles qui poussent, des hôtels, des supermarchés, et beaucoup de bâtiments qui contribuent vraiment à l'essor économique de la province du Lualaba.
D'autres acteurs interrogés remettent cependant en cause l'érection de ces infrastructures. D'après eux, le problème réside au niveau de la qualité de ces ouvrages.
Parlons de la journée porte ouverte et exposition photo en hommage aux 22 journalistes assassinés en RDC de 1994 à 2021. Organisée par l'Association congolaise des femmes de la presse écrite en collaboration avec l'Union nationale de la presse du Congo UNPC et d'autres associations de défense des droits de l'homme, cette rencontre vise un double objectif. Élever les 22 journalistes assassinés au rang des martyrs de la liberté de la presse et ériger un monument à leur mémoire. La cérémonie a eu lieu ce jeudi au centre Carter, ici à Kinshasa. Vanessa Kongolo signe ce reportage.
La salle du centre Carter où se déroule la cérémonie est décorée pour la circonstance des photos et articles de 22 journalistes assassinés. Parmi eux, Fongike du journal La Référence Plus, Didas Namujimbo et Serge Maéche de Radio Okapi. L'assistance salue la mémoire de ces journalistes engagés pour la recherche de la vérité. Deo Mouima, rédacteur en chef du quotidien La Référence Plus, témoigne.
Dans la nuit du 2 novembre 2010, je suis la dernière personne qui avait parlé à Fongike. On ne peut pas comprendre. Je crois que vous avez mis des papiers là sur lesquels il y a des photos des journalistes. Tous ont été assassinés. La cause de leur mort n'a jamais été décidée.
Grâce Ngike, la fille du fait Franck Ngike, sollicite la réparation au nom des orphelins victimes.
Nous appelons à ce que ces 22 journalistes soient reconnus comme les martyrs de la liberté de la presse, qu'un statut soit érigé en leur mémoire et qu'une réparation juste et honorable soit accordé à nous, les orphelins laissés derrière.
Maître Kabongo, l'un des avocats des victimes, invite les dirigeants à mettre fin à l'impunité. Débuté ce jeudi, les activités de plaidoyer vont se poursuivre jusqu'au 2 novembre.
Actualité internationale.
Présidentielle au Tchad, l'autorité nationale de gestion des élections annonce Mahamat Idriss Déby largement en tête des résultats provisoires globaux avec 61% des suffrages et plus de 75% des participations. Il devance 9 concurrents dont Succès Masra, classé deuxième avec 18,53% des voix. Celui-ci avait auparavant assuré l'avoir emporté et mis en garde contre l'inversion de l'ordre des choses et des chiffres.
L'invité.
Il s'agit de Viviane Van de Peyre, représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU chargée de la protection et des opérations. Elle a bouclé mardi 7 mai une visite de 48 heures à Beni. Quel a été l'objet de sa visite dans cette partie du Nord Kivu et que pense la MONUSCO de la situation sécuritaire dans cette province? Viviane Van de Peyre s'entretient avec André Kitenge.
Viviane Van de Peyre, bonjour. Quelle impression avez-vous de votre arrivée à Beni? Une première visite d'ailleurs depuis votre nomination en 2024.
Merci pour la question. Ce n'est pas ma première fois à Beni. J'étais là dans 2017, mais c'est mon première visite après mon retour ici.
La situation est clairement plus difficile. Je me suis entretenu avec les personnels sur place, mais surtout avec les autorités et le groupe de femmes et des jeunes de la société civile. Ils sont confrontés à de nombreux défis et s'inquiètent du départ de la MONUSCO. Pour insister, il n'y a pas de date pour notre départ. Nous sommes toujours là. Nous mettons en œuvre notre mandat avec les autorités que nous soutenons et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer une transition correcte vers les partenaires des mises en œuvre qui resteront après le départ de la MONUSCO. Les Nations Unies seront toujours là, les agences seront toujours là, ainsi que vos propres autorités.
Durant votre séjour à Beni, vous avez rencontré le maire de la ville, les associations féminines et de la jeunesse. De quoi avez-vous parlé?
Nous avons parlé de la situation à Beni, de la situation en matière de sécurité, du grand besoin qu'a la population d'être protégée et d'être aidée dans sa recherche de la paix afin d'atténuer les effets de groupes armés qui s'en prennent à la population. Les besoins des populations sont très nombreux. Nous avons essayé de répondre à certains d'entre eux au cours de 20 dernières années, mais il s'agit d'un problème très complexe et il faut que nous nous y attaquions tous ensemble. J'ai également insisté sur le rôle que la société civile doit jouer pour prendre ce destin à main dans la limite des ressources dont elle dispose, car la solution n'appartient pas seulement aux étrangers, mais elle doit également venir de la population.
La région de Beni est l'objet ces dernières semaines de plusieurs attaques des rebelles de ZADF. Que pense la MONUSCO afin de mettre fin à cette situation?
Nous voulions arrêter immédiatement. Nous ne voulons pas que les groupes armés profitent de la population. Cependant, comme je l'ai déjà dit, il est très difficile de contrôler ces problèmes et nous devons vraiment travailler tous ensemble. Après le départ de la MONUSCO, le gouvernement, les FARDC et la PNC joueront leur rôle dans la protection de la population. Tout le monde a des capacités limitées et j'ai vraiment besoin de toute la population, que ce soit les dirigeants, les gens dans la rue, tout le monde doit se rassembler et trouver des solutions pour vos communautés qui fonctionnent et conduisent une paix durable.
Vous êtes la représentante spéciale adjointe en charge de la protection et des opérations. Quelle est la situation sécuritaire dans le Nord Kivu et quelles sont les dispositions prises par la MONUSCO dans le cadre de son mandat pour protéger la population civile?
The situation is really, really difficult. We have had some.
Nous avons entendu parler des bombes qui sont tombées dans les camps de personnes déplacées et qui ont fait des victimes. Il est donc très difficile pour les agences, les fonds et les programmes de faire leur travail. De nombreuses personnes déplacées sont en mouvement et nous faisons de notre mieux ensemble pour faire face à la situation. La force coordonne son action avec les FARDC qui sont les premier responsable de la protection de la population civile. Selon nous, les FARDC menaient également des opérations dans cette zone, ce qui a déclenché une réponse et nous allons de l'un à l'autre. Nous enquêtons actuellement sur ce qui s'est passé exactement. Il y a beaucoup de faits qui ont été rapportés et que nous n'avons pas pu vérifier. Donc, nous enquêtons. Ce que nous faisons, c'est offrir notre soutien aux FARDC pour gérer ces situations, pour s'assurer que les personnes déplacées puissent vivre dans leur camp sans être exposées à des munitions et pour s'assurer que les humanitaires puissent retourner sur place et s'occuper de la population qui se trouve dans une situation très difficile.
Viviane Van de Peyre, merci.
Merci beaucoup.
La représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU chargée de la protection et des opérations était interrogée par André Kitenge. Ainsi s'achève ce journal coordonné et supervisé par Pele Kipela Mondo et mis en onde par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa. Ce radiojournal est à réécouter sur notre site internet www.radiokapi.net. Merci.